Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel je voulais interroger aujourd'hui l'activisme écologique.
RTL 7h09, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. La dernière fois, c'était donc un tableau de Van Gogh. Cette fois-ci, c'est une œuvre de Claude Monet qui a été prise pour cible hier par des militants écologistes.
La scène a eu lieu au musée Barberini de Potsdam en Allemagne. Deux activistes ont lancé de la purée sur la toile du peintre impressionniste estimé à 115 millions d'euros.
Les meules de Monet aspergées de purée, les tournesols de Van Gogh aspergées de soupe à la tomate à Londres. Ça, c'était mi-octobre. Et voilà comment les deux jeunes militants britanniques de l'organisation Just Stop Oil défendaient leur action.
L'art vaut-il davantage que la vie? Êtes-vous plus concerné par la protection d'une œuvre ou de la planète? La crise de la vie chère et la crise climatique sont provoquées par le pétrole et le gaz.
Qu'est-ce qui vaut le plus, l'art ou la vie? Alors on n'a pas 4 heures, mais on va quand même prendre le temps de la réflexion dans ce focus pour questionner précisément les modes d'action des militants face à la crise climatique. Ces jeunes activistes sont-ils plus radicaux qu'hier ou ne sont-ils que les héritiers de coups d'éclat plus anciens comme ceux de faucheurs d'OGM ou de Greenpeace? C'est à cela que l'on va s'intéresser dans ce focus avec un activiste. D'abord, bonjour Quentin.
Bonjour Marion.
Membre de l'organisation Dernière Rénovation, vous portez un combat en particulier, vous pouvez nous le rappeler?
Tout à fait, donc moi je suis un citoyen de cette campagne de résistance civile et on porte une revendication extrêmement précise qui est que le gouvernement engage un plan de rénovation thermique des bâtiments de manière performante et globale d'ici 2040 avec un système, une clarification du système de financement pour notamment un système progressif pour aider les ménages les plus précaires à engager ces travaux-là.
Voilà, avec nous aussi Noël Mamère, vous avez été député européen, candidat à la présidentielle pour Europe Écologie Les Verts en 2002, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors je voudrais d'abord vous entendre Quentin, parce que Dernière Rénovation a fait parler d'elle de nombreuses reprises ces derniers mois, sur le Tour de France avec des militants qui ont brièvement interrompu la course en s'asseyant sur le sol, ou à Roland-Garros comme cette jeune militante qui s'était accrochée par le cou au filet.
J'ai sauté sur le terrain et c'est vrai que je savais que j'allais partir en garde à vue. Pour moi c'était vraiment le risque à prendre, je pensais vraiment pas arriver à m'accrocher au filet et ça a marché. Pour moi c'est une réussite, je pense que le message soit passé positivement ou négativement, il y a un message qui est passé, ça a fait bouger des lignes. Et je continuerai à faire les actions qu'il y a à faire.
Alors, il y a aussi eu des actions sur le périphérique parisien lors du match PSG-OM. Vous avez vous-même été content de certaines de ces actions?
Absolument, j'ai été d'une des actions justement sur la route, le pont de Neuilly, pas très loin d'ici notamment. Ces actions-là, elles arrivent dans un aboutissement un peu plus large d'un constat sur l'efficacité des modes d'action qu'on a pu avoir jusqu'ici. Ça fait 30 ans que le constat scientifique, on le connaît, ça fait 30 ans que le diagnostic il est extrêmement clair, que les scientifiques non seulement nous expliquent la physique du changement climatique, le système causal, qu'est-ce qui provoque ces conséquences-là, et puis comment ça se matérialise pour nous. Et puis ensuite, les solutions, ça, on apporte des solutions. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'État est complètement inopérant sur les solutions qu'il a à disposition, il a tout un panel d'actions, et on a épuisé... En tant que citoyen, en fait, ordinaire comme vous et moi, je veux dire, on a épuisé dans l'ensemble de l'arsenal politique des outils qu'on avait à notre disposition pour se faire entendre et rappeler l'urgence de l'action et de la petite fenêtre qui nous reste pour essayer d'engager ces plans vraiment de transformation radicaux.
Alors Noël Mamère, vous avez vous-même participé en votre temps à des actions de fauchage dans des champs OGM. Quel regard vous portez, vous, sur ces actions? Vous les voyez comme une continuité ou comme encore plus radicale?
Donc c'est une continuité qui ne date pas d'ailleurs de ce que l'on a pu connaître au Larzac ou dans d'autres situations contemporaines, mais cela est inspiré d'une grande figure écologiste qui s'appelle Henri David Thoreau, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelait « La désobéissance civile » en 1849, parce qu'il protestait contre le fait que l'on lève des impôts pour mener la guerre au Mexique. Et ce qui est très intéressant dans la figure de Thoreau, qui est aussi très connu pour son livre « Walden ou la vie dans les bois », c'est qu'il était aussi un militant actif d'un réseau américain qui s'appelait le Underground Railroad, qui consistait à aider les esclaves qui fuyaient les plantations à pouvoir quitter le territoire des États-Unis. Donc nous nous inscrivons dans une ligne historique qui s'est poursuivie avec Gandhi, avec Martin Luther King, et aujourd'hui avec des figures que l'on a un petit peu oubliées, mais je pense en particulier à des jeunes gens comme Cédric Herrou, ce militant qui a désobéi à la loi pour aider des migrants à traverser les Alpes et à ne pas mourir dans des conditions absolument abominables. Donc ce que font ces jeunes d'aujourd'hui, c'est pour moi une forme d'admiration dans la mesure où ils ont bien compris que nous sommes dans une course contre la montre, qu'il n'y a plus de temps à perdre et que face à des politiques qui sont très fortes pour le discours de la méthode, mais beaucoup moins pour l'action, eh bien, il faut bousculer l'ordre des choses, il faut désobéir pour permettre un débat public. Et les désobéissances auxquelles on assiste, ce ne sont pas des actions clandestines, ce sont des actions devant tout le monde. On sollicite les photographes, on sollicite la presse pour bien montrer ce que l'on fait et pour provoquer un débat qui débouche sur, effectivement, au Parlement, qui est le lieu de la démocratie, sur des lois qui permettent de changer le modèle dans lequel nous sommes et dont nous voyons bien que c'est un modèle qui nous mène dans le mur. On parle beaucoup d'écologie punitive, mais ce qui est punitif aujourd'hui, c'est le statu quo, c'est ce que nous vivons tous les jours. Donc il faut que cette génération que représente Quentin se mobilise. Et puis arrêtons de dire, s'il vous plaît, que l'on a attaqué un tableau de Monet ou de Van Gogh. Précisons que ces tableaux sont protégés par des vitres de verre et que les militants qui ont aspergé de purée ou de tomates ces vitres de verre ont bien pris soin de ne pas endommager des œuvres d'art qui montrent aussi le génie de l'humanité, de la même manière qu'on avait dit que José Bové avait détruit un McDo. Non, il avait détruit avec ses amis des palissades d'un chantier de McDo, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et le procès dont il a été l'objet à Millau était très intéressant, puisque c'est parce qu'il est allé en prison que le débat a été initié. C'est parce que nous avons été condamnés en juillet 2004 pour de l'arrachage d'OGM, avec de lourdes condamnations, que nous avons pu dire « on va s'expliquer devant les tribunaux et on va essayer de faire modifier la loi ». Et la loi a été modifiée.
Mais vous savez bien, Noël Mamère, qu'il y a là, dans la dégradation entre guillemets de ces tableaux, quelque chose de symbolique qui relatif à l'art et à ce qu'il représente.
Ne parlez pas de dégradation. L'art, c'est ce qui est le symbole du génie de l'homme. Il n'y aura plus d'art s'il n'y a plus de vie. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? On protège la vie et on montre que l'art, c'est un des outils qui nous permet d'être intelligents et d'agir autrement que de manière suicidaire comme on le fait aujourd'hui.
Quentin.
Oui, et puis je pense que ça doit nous interroger sur notre hiérarchie des valeurs et qu'est-ce qui nous indigne aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est choqué qu'aujourd'hui une peinture comme les tournesols de Van Gogh ou le Monet ait pu être dégradée ou en tout cas entachée? Évidemment, merci Monsieur Mamère de rappeler que ça n'a pas été dégradé. Pourquoi ça nous indigne? Parce que c'est précieux et parce qu'aujourd'hui on est choqué, indigné, quelque chose d'aussi précieux et aussi important pour nous, viscéralement, soit menacé. Pourquoi est-ce que cette indignation, elle est pas sur ce qui compte vraiment et ce qui nous permet simplement aujourd'hui de vivre dans notre écosystème? Parce que, comme dit Monsieur Mamère, c'est-à-dire que aujourd'hui, les fleurs, les tournesols, les rendements agricoles, ça va s'effondrer si on continue le statu quo et le business as usual. Donc, en fait, c'est cette indignation. Moi, je suis désolé, mais je suis indigné de cette indignation parce que cet été, il y a 11 000 personnes qui sont mortes probablement de la surmortalité à cause des vagues de chaleur et des canicules. Les chiffres de l'INSEE. Mmh. 11 000 personnes. Qui en France? Qui en a parlé? Qui en a parlé? Personne n'en a parlé. Je veux dire, c'est ça qui doit nous indigner. C'est ça collectivement qui doit nous indigner. Et ce qui doit nous indigner aussi, c'est que, en l'occurrence, sur les actions qu'on a portées avec Dernière Rénovation, qui fait partie d'autres campagnes du réseau A22, dont fait partie Just Stop All, dont fait partie Renovate Switzerland, par exemple, qui est une campagne sœur aussi, ou les Allemands que vous avez cités. En l'occurrence, vous aviez Julia Steinberger, qui est une climatologue du GIEC, qui allait sur les actions. Et je cite cette scientifique du GIEC, c'est-à-dire qui est climatologue, qui travaille sur ces questions-là, qui est une citoyenne la plus renseignée sur la question. Elle me dit, je fais ça, pas pour le plaisir, mais à 1000% parce que je suis désespéré et je suis terrorisé. Qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui, qui des scientifiques aussi émanants? Je peux vous citer Peter Kalmus de la NASA, par exemple. Je peux vous citer tout un tas de scientifiques, de climatologues, qui sont désespérés, qui sont en dépression. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ça? Que des gens, des citoyens aussi renseignés aillent bloquer des routes et aillent sur ce genre d'action.
Des scientifiques qui s'engagent, en effet, ils sont de plus en plus nombreux, eux aussi, à participer à des actions de résistance civile. Alors ces actions, elles font beaucoup parler. Je voudrais vous faire écouter, Quentin, ce que soulignait notre éditorialiste Alba Ventura quelques jours après l'aspersion du Van Gogh.
Quel est le but? Saccager la culture? Saccager des chefs-d'œuvre? En s'en prenant à la représentation de la nature en plus? Le tournesol de Van Gogh, il n'était pas nourri aux pesticides. Ces jeunes-là ne produisent rien. Ce qu'ils font, c'est juste du bruit. C'est le militantisme du buzz.
Alors, c'est du militantisme opportuniste, utiliser le système médiatique pour faire parler et exister?
Ben oui, mais la preuve, je pense qu'il faut être lucide sur l'efficacité des derniers modes d'action sur lesquels on a pu recourir. J'en tiens pour exemple, par exemple, les marches pour le climat. Vous avez des millions de jeunes qui sont allés dans les rues. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Vous avez des pétitions qui sont signées systématiquement. Qu'est-ce qu'il en sort ? Pas grand-chose, sincèrement. La Convention citoyenne pour le climat, une assemblée citoyenne qui est quand même un phénomène inédit dans notre démocratie en France, qui a travaillé pendant des week-ends entiers à essayer de fournir au gouvernement qui l'avait mandaté de fournir des mesures prêtes à l'emploi pour décarboner notre économie. Même pas 15% a été passé par le gouvernement alors qu'il s'était engagé à le passer sans filtre. Aujourd'hui, on fait le constat avec pleine lucidité et pragmatisme que tous les outils dont on a à disposition, ça ne marche pas, les rapports scientifiques s'accumulent. Donc oui, on est obligé de recourir à cette puissance médiatique, on est obligé d'aller là où le regard se porte et d'aller vraiment montrer vraiment qu'est-ce qui compte.
Mais est-ce que ce n'est pas contre-productif, Quentin ? Vous ne craignez pas de vous mettre à dos une frange de la population initialement assez passive sur ces sujets-là, mais qui pourrait être un peu hérissée par ces modes d'action ?
Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis un citoyen comme un autre et je fais simplement le constat avec lucidité que tout ce qui doit être fait, notamment sur la rénovation thermique des bâtiments, ça n'est absolument pas fait. On est complètement à des années-lumière de faire ce qui doit être fait. D'accord ? Donc moi, je ne cherche pas à être populaire. Je ne cherche absolument pas à être populaire. Je cherche simplement à essayer de sauver ce qui reste à sauver et qu'il y ait des résultats et qu'on ait vraiment des résultats dans la mise en place des choses qu'on doit faire. Enfin, il y a plein de choses qu'on doit faire. Il y a plein de planifications à mettre en place. Moi, je me bats pour ça. Il faut aussi regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est-à-dire que dans les luttes des mouvements civiques, je dis ça avec beaucoup de prudence et beaucoup de respect pour ces mouvements qui sont faits dans des conditions sociopolitiques qui sont différentes des miens. Regardez les droits civiques, les suffragettes. À l'époque, c'était les personnes les plus détestées de tout leur pays, voire du monde. Donc aujourd'hui, on cherche pas la popularité. On cherche à l'efficacité des modes d'action et on cherche à ce que des choses soient mises en place, notamment par le gouvernement.
L'efficacité qui fait parler, c'est une certitude, mais pour pouvoir pousser une mesure, plus on est soutenu, plus c'est facile de la pousser, non ?
Oui, absolument, mais en fait, le travail qu'on fait là, il est aussi pour interroger les citoyens et moi, la question que je pose à ces personnes-là qui s'indignent et qui sont, et moi, je ne prends aucun plaisir à aller bloquer des gens sur la route, mais finalement, de quel côté de l'histoire ces gens ils veulent être ? De quel côté de l'histoire, honnêtement, qu'est-ce que vous direz à vos enfants, à vos petits-enfants quand ils vous demanderont ce que vous faisiez à l'époque où on pouvait encore changer les choses ? Parce que c'est ça dont il s'agit. C'est ça dont il s'agit. Est-ce que vous leur direz que vous achetez du bio et que vous étiez en train de signer des pétitions ? Moi, je pense qu'il faut faire beaucoup plus. Il faut être beaucoup plus lucide et beaucoup plus responsable sur ce qui doit être fait et le moment critique de l'histoire qu'on est en train de traverser. Parce que la fenêtre de temps qui nous reste avant de dépasser ce qu'on appelle les points de bascule climatiques, elle est extrêmement courte.
Quentin, est-ce que vous êtes désespéré ? Je vous pose la question parce que les modes d'action de certains militants paraissent presque dingues quand on les regarde. En Allemagne, il y a une jeune fille qui a utilisé du béton à prise rapide sur sa main pour dénoncer un projet autoroutier, si je ne m'abuse. Il y a ces militants qu'on voit aussi mettre de la glu. Je crois que vous-même, vous avez utilisé de la glu. C'est pas neutre physiquement de se coller la main et de se mettre en plus du béton à prise rapide sur une main. Est-ce que ça dit quelque chose de votre désespoir ?
Non mais sérieusement, est-ce que vraiment se coller la main, c'est dangereux par rapport à ce qu'on va se prendre dans la tête d'ici les prochaines années, les prochaines décennies ? C'est ça qu'il faut mettre en regard, c'est pas l'action en tant que telle. Je veux dire, c'est pas ça la question. Évidemment que ça témoigne d'une forme d'action un peu plus aboutie, on cherche à être de plus en plus radical, ou en tout cas aller de plus en plus loin dans le mode d'action. Ça, c'est vrai. Mais moi, personnellement, je suis pas... Oui, il y a des moments où je suis désespéré. Il y a des moments où je suis désespéré parce que je vois que le gouvernement qui nous propose des plans de sobriété à base de col roulé et de mise en veille de systèmes de sèche-linge. Non, mais sérieusement. Enfin, moi, c'est ça qui me désespère. C'est cette inaction-là et c'est les réactions qu'on peut avoir justement face à des actions comme Van Gogh ou des choses comme ça où les gens s'indignent alors qu'ils ne comprennent pas absolument le message du fond. Donc ça me désespère. Par contre, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a encore plein de choses à faire. On peut encore faire beaucoup de choses et j'ai l'intime conviction que en se mobilisant collectivement en tant que citoyen, en prenant notre part de responsabilité à ce moment urgent de l'histoire, je pense qu'on peut faire des grandes choses et qu'il reste encore plein de choses à faire. Voilà. Donc oui.
Noël, ma mère, est-ce que c'est pas aussi là un constat d'échec pour la classe politique ?
Ah bah, la classe politique, on a l'impression qu'elle regarde le monde du 21e siècle avec les yeux du 20e siècle et qu'elle est restée complètement engoncée dans cette conception du progrès qui aujourd'hui est en faillite. Avec ces contorsions pour nous expliquer que il faut rentrer dans la sobriété, mais poursuivre la croissance qu'on appelle la croissance verte, qui n'est rien d'autre que du greenwashing. Donc il y a une partie de la classe politique qui est consciente de cela. Je parle au nom de ma famille politique et j'ai eu des responsabilités. J'appartiens à cette génération qui pendant 40 ans a été qualifiée de défenseur de la bougie contre le progrès, d'obscurantiste, de marchand d'effondrement. Mais il n'empêche que pendant ces 40 années, nous avons contribué à ce que nos idées infusent la société française. Et aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous vous apercevez que la question écologique est dans les toutes premières priorités, après les questions de pouvoir d'achat, de santé et d'éducation. Donc il faut que cette classe politique se renoue avec la société, qu'elle sorte du hors-sol et qu'elle comprenne que plus elle attendra et plus les contraintes seront grandes et moins nous pourrons effectuer cette transformation écologique, cette bifurcation écologique et sociale de manière démocratique et consentie. C'est ça qui moi aussi m'inquiète, c'est pas simplement de l'éco-anxiété, c'est une profonde anxiété, une profonde peur, enfin peur c'est pas le mot qui convient parce que la peur peut vitrifier comme elle peut aussi être un outil d'action, mais je suis d'une grande inquiétude quand je vois cette incompréhension, cet énorme malentendu d'une immense majorité du personnel politique, adossé souvent d'ailleurs sur des intérêts financiers et des intérêts industriels, qui sait, parce que comme l'a dit Quentin, les scientifiques nous le disent depuis longtemps, mais qui ne veut pas voir. Et cet aveuglement, il est criminel. Voilà, point barre.
Vous comptez sur elle, Quentin, sur la classe politique aujourd'hui ?
Je pense qu'on peut pas s'en passer. Je veux dire, aujourd'hui, on a un appareil politique, on a plus le temps d'attendre. On a besoin que les politiques fassent preuve de courage et utilisent de la puissance publique qu'ils ont à leur disposition. Et dernière innovation, est complètement complémentaire de toute autre forme de lutte, beaucoup plus locale, beaucoup plus localisée sur des thématiques plus précises. Mais aujourd'hui, on a aussi besoin d'appuyer sur ces politiques nationales qui ont été vraisemblablement un peu laissées de côté par les mouvements climat. Ou en tout cas sur cet engagement aussi profond et aussi précis. En fait, c'est aussi ça l'idée, c'est d'avoir des revendications extrêmement précises pour pouvoir revendiquer des combats et mobiliser davantage derrière et catalyser d'autres formes de mouvements. Parce que il faut être très lucide, je veux dire, la rénovation thermique des bâtiments, c'est une évidence. C'est le béaba de la transition, ça fait vraiment 30 ans qu'on sait qu'il faut le faire, ça fait 30 ans qu'on connaît les raisons, atténuation, adaptation, justice sociale, justice climatique, planification, enfin, il y a énormément de raisons, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas l'objet. Mais évidemment, c'est pas la panacée et ça suffira pas. On ne se suffira pas d'un plan de rénovation thermique des bâtiments. Il y a plein d'autres choses à engager et aujourd'hui, c'est le premier combat qu'on mène, mais c'est pas le dernier.
C'est le premier combat avant d'essayer de poursuivre donc cette lutte qui prend des formes finalement assez variées. C'est vrai que parmi les actions dont on a parlé ces derniers mois, il y a aussi eu ces golfs saccagés, ces jacuzzis percés à Gérardmer dans les Vosges en pleine sécheresse. Il y a eu aussi ces dégonfleurs de pneus de SUV qu'Arthur Pereira avait rencontré au début du mois d'octobre pour RTL.
Oui, je retrouve Sylvain assis à la terrasse d'un café parc à Orange Fluo. Sur les épaules, chaussures de randonnée au pied. À 25 ans, il est biologiste marin et depuis 15 jours, dégonfleur de pneus.
Je commençais à chercher sérieusement une façon de m'investir sur un sujet important, le transport individuel, qui est quand même la deuxième cause de réchauffement climatique dans le monde. Et l'action en tant que telle m'a plu parce qu'on ne détruit pas le matériel, il faut rappeler qu'on les dégonfle, on les perce pas.
Et c'est une organisation nationale, ce groupe de dégonfleurs ?
C'est plein de petits groupuscules indépendants. Dans mon groupuscule, on est entre copains.
Vous êtes combien ?
On est 4, bientôt 5.
Noël Mamère, est-ce qu'il y a là aussi, derrière ces actions, selon vous, une nouvelle forme de lutte des classes ?
Écoutez, je voudrais rendre ici hommage, puisque vous m'en donnez l'occasion, à un grand philosophe qui nous a quittés il y a peu de temps, qui s'appelle Bruno Latour, et dans l'un des derniers ouvrages avec un de ses amis sociologues, était d'expliquer qu'il fallait inventer la nouvelle classe écologique, c'est-à-dire ce sont de nouvelles alliances entre des classes qui, jusqu'à nouvel ordre, se combattaient plutôt qu'elles de s'organisaient pour essayer de changer la société. Donc je voudrais reprendre cette phrase de Chico Mendes, cette figure symbolique et iconique des écologistes qui était un syndicaliste brésilien qui a été assassiné par les grands propriétaires terriens en 1986 parce qu'il se battait contre ces propriétaires terriens qui exploitaient d'une manière éhontée la forêt et les ouvriers. Et il expliquait que l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Et je pense que cette expression était tout à fait adaptée à ce que nous avons aujourd'hui. En effet, comme on le voit aujourd'hui, il y a des classes, oui, il y a ceux qui veulent protéger leurs intérêts, qu'on appelle les riches ou les super-riches, ceux qui font des super-préfits et qui sont protégés par des politiques qui ne veulent rien entendre. Et pendant le même temps, on va réduire les APL et on va demander aux Français de base de faire des efforts pour contribuer à la sobriété. Mais la sobriété, elle n'a pas le même sens pour les uns comme pour les autres.
Mais ce n'est pas le risque que tout cela puisse dégénérer ?
Mais évidemment que ça peut dégénérer quand il n'y a pas, quand vous êtes confronté à un gouvernement et un président de la République qui pendant 5 ans s'est attaché à détruire les corps intermédiaires. La société, pour être vivante et pour pouvoir réguler ses conflits autrement que par la violence, elle doit avoir à sa disposition des outils de médiation. Les partis politiques sont là pour ça, mais aussi les associations, mais aussi les syndicats, bien évidemment. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une très grande faiblesse avec, pour l'accompagner malheureusement dans cette descente aux enfers, un manque de confiance, j'emploie un euphémisme en disant cela, d'une majorité de Français vis-à-vis de leur personnel politique. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, il y ait près de 89 députés du Rassemblement National, c'est-à-dire de l'extrême droite, en France, et qu'il faut arrêter de regarder comme si c'était un étranger lointain ce qui est en train de se passer en Italie, parce que ça nous pend au nez.
Le mot de la fin pour vous, Quentin.
Sur la lutte, j'aimerais juste revenir sur la lutte des classes et la lutte sociale et écologique. Effectivement, je pense que c'est extrêmement important et la rénovation thermique s'inscrit là-dedans, mais je redonne juste quelques éléments. C'est que au niveau mondial, 10% des personnes émettent 50% des émissions. À la France, les travaux de Piketty et Chancel, ils nous montrent que les 10% les plus riches, c'est 25 tonnes de CO2 par personne, et les 50% les plus pauvres, c'est en gros 5 tonnes de CO2 par personne, qui est l'objectif qu'on doit avoir d'ici 2030. Donc évidemment que si les politiques climatiques et énergétiques en France, elles ne font pas de différenciation, et aujourd'hui elles ne traitent pas ces sujets de lutte sociale, ça ne peut pas être efficace. Il faut aller là où sont les gisements de réduction, et ils sont au niveau des plus riches. Et en l'occurrence, on n'a vraiment rien appris de la taxe carbone, quoi. Donc, on fait des taxes carbone qui vont dans le sens en réalité de ce qu'il faudrait faire, mais on n'apporte pas de solution. On fait de manière complètement indifférenciée, quel que soit le revenu de la personne et la capacité d'agir, et on n'apporte pas de solution structurelle. La rénovation thermique, c'est exactement ça. C'est quand on va demander à des personnes de faire de la sobriété. Aujourd'hui, si on n'apporte pas de solution et si on ne permet pas à ces personnes de par ailleurs pouvoir avoir un logement décent, dans lequel on peut ne serait-ce que se loger. Aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes en précarité énergétique en France. 12 millions, ça risque d'augmenter cet hiver en gros. Mais si on n'apporte pas de solution structurelle, évidemment que ça pète. Évidemment que ça va exploser. Donc j'invite chaque citoyen qui a pris la mesure de ce qu'il faut faire aujourd'hui, la responsabilité qu'on a en tant que citoyen et citoyenne à ce moment de l'histoire, au vu de l'urgence, de nous rejoindre, de rejoindre les rangs de dernière rénovation pour venir lancer cette vague d'action début novembre, fin de semaine prochaine.
Donc fin de semaine prochaine, vous aussi vous repasserez à l'action avec dernière rénovation.
Absolument.
Merci beaucoup.
Pas fait s'arrêter.
Merci Quentin d'avoir témoigné dans ce focus de votre activisme et de votre engagement en tant que citoyen aussi. Merci à vous également, Noël Mamère, de nous avoir éclairé sur cet activisme dans cet épisode de Focus que vous pouvez noter, que vous pouvez commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.